Voici les titres du journal.
Aujourd'hui a lieu la journée mondiale de prévention du suicide. La main tendue a annoncé hier que la détresse était en augmentation chez les jeunes. Pour en parler, nous aurons avec nous le directeur de Stop Suicide. La caisse cantonale vaudoise de compensation à AVS est soupçonnée de graves irrégularités dans ses frais d'administration. Depuis plusieurs années, il y aurait eu des dépenses excessives de la direction. Une enquête est en cours. De nouvelles balades culturelles et numérisées ont vu le jour à Monthey. Un projet porté par Décrire ma ville et inauguré hier soir. Au hockey sur glace, le Montezan Goran Bezina va entamer ce soir à 41 ans une nouvelle saison avec le HC Sierre. Dans le Chablais vaudois, la course à travers Aigle est toujours en train de chercher la bonne formule.
Et pour la météo, pour cet après-midi, un temps nuageux avec quelques averses avant le retour pour ce week-end d'un temps ensoleillé. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui vous est présenté par Joël Espy. Bonjour Joël.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Aujourd'hui a lieu la journée mondiale de prévention du suicide. La main tendue, le communiqué hier, les jeunes notamment se sentent désemparés depuis le début de la pandémie. Pour évoquer cette problématique, j'ai avec moi le directeur de Stop Suicide, Raphaël Tellin. Bonjour.
Bonjour.
On peut peut-être simplement commencer par rappeler le but de cette journée du 10 septembre.
Il s'agit simplement de sensibiliser en fait à la thématique du suicide, qui est un sujet qui est encore très tabou et pourtant qui concerne de nombreuses personnes, notamment les idées suicidaires qui sont relativement communes.
On peut en parler, il faut en parler, dans les médias notamment.
C'est très important d'en parler, c'est très important d'en parler d'une manière bienveillante pour pouvoir signaler finalement aux personnes qui vivent des crises qu'elles ont le droit de vivre ces crises-là, que la souffrance est autorisée et qu'il existe des ressources auxquelles elles peuvent avoir accès pour aller mieux. Après, il y a certaines manières d'en parler qui peuvent être dommageables.
J'aimerais bien qu'on revienne en détail à la fin de cette interview sur les moyens auxquels peuvent recourir les personnes qui se sentent mal. On l'a dit, il y a notamment une augmentation de 30% des appels l'année dernière de jeunes au 143. C'est un phénomène qui vous inquiète, ça ?
Oui, c'est bien sûr, c'est inquiétant parce que ça montre vraiment que cette situation exceptionnelle qu'on vit maintenant depuis 2 ans est dure pour les jeunes, pour toute la population, mais notamment pour les jeunes. Le point positif, c'est qu'ils s'adressent à une ressource comme le 143. Donc ça, c'est un bon signe. L'utilisation finalement de ces ressources est l'indice que les jeunes qui vont mal savent à qui s'adresser. On parle plus de santé mentale aussi pendant cette période, et ça c'est peut-être un développement positif. Mais clairement, il y a une souffrance plus grande, et c'est extrêmement préoccupant à court terme, mais aussi à long terme.
Est-ce que l'idée qui consiste à penser que les envies suicidaires, ou voire les suicides, augmentent en temps de crise, c'est un lieu commun ou c'est la réalité ?
C'est vraiment une grosse question aussi pour les scientifiques actuellement. On n'a pas une réponse définitive. Malheureusement, en Suisse, il n'y a pas de chiffres actuellement sur les suicides pendant la crise. Donc, on peut faire que des projections. Par contre, enregistrer une augmentation des demandes comme le 143, ça a été aussi vu dans des centres d'urgence pédopsychiatriques, par la ligne du 147 de Pro Juventute. Donc il y a toutes les raisons de penser qu'avec cette crise, on vit une situation tellement difficile qui rajoute une couche sur les difficultés ordinaires de la vie. Donc il y a des raisons d'aller mal, ça c'est sûr.
Alors voilà, concrètement, expliquez-nous s'il vous plaît la démarche pour une personne qui a des pensées morbides, des pensées suicidaires. Prenez le temps de nous expliquer ce qu'on doit faire, s'il vous plaît.
Alors, les personnes qui vivent des idées suicidaires, généralement, on estime d'elles-mêmes qu'elles sont déjà tombées très bas, ont un sentiment de honte vis-à-vis de vivre ces idées suicidaires, ont l'impression d'être inadéquates et ont très fréquemment beaucoup de peine à en parler à leur entourage proche, à des amis ou à leur famille, et à aller chercher de l'aide. Ça, c'est quelque chose qui s'observe beaucoup.
Oui.
Et pour finalement casser cet obstacle, c'est là qu'un entretien comme on a maintenant est utile. Ça permet de casser le tabou sur le fait qu'avoir des idées suicidaires est courant et acceptable et qu'il existe des ressources. Et d'autre part, il y a aussi le rôle que l'entourage peut jouer, c'est-à-dire quand on se fait du souci pour quelqu'un, on a l'impression qu'un de nos proches va mal, pourquoi pas demander s'il y a la présence d'idées suicidaires.
D'accord. Donc, parler aux proches, on parle donc toutes les situations de détresse psychologique, hein, de dépendance également, on a l'occasion d'en parler sur cette antenne. Les numéros de téléphone d'urgence, on va dire, pour faire appel lorsqu'on a des pensées négatives, quels sont-ils?
Alors, il y a le 143 ou le 147, qui permet simplement d'exprimer des souffrances. Le 143, c'est la ligne de la main tendue, justement. Mm-hmm. Le 147 de Pro Juventud, c'est spécialisé pour les jeunes. C'est possible de poser des questions spécifiques sur différents sujets. C'est possible de simplement exprimer des émotions qu'on a besoin de faire sortir. Il existe aussi des sites internet pour les jeunes, par exemple ciao.ch, qui permet de se renseigner sur toutes sortes de problématiques. Et puis sinon, bien sûr, y a les thérapeutes, il y a les psychologues, y compris les urgences psychiatriques, qui sont une ressource auquel en fait il ne faut pas hésiter à s'adresser quand on se sent vraiment débordé avec des idées suicidaires très envahissantes.
D'accord, merci beaucoup Raphaël Tanin d'être venu nous parler pendant quelques minutes à l'occasion de cette journée mondiale de prévention du suicide. Je rappelle les numéros pour les personnes qui auraient des pensées morbides, le 143 ou le 147, et éventuellement les spécialistes et les services psychiatriques des hôpitaux. Merci beaucoup Raphaël Tanin.
Merci à vous.
La caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est dans la tourmente. Elle est soupçonnée de graves irrégularités dans ses frais d'administration. Tout en rappelant que la présomption d'innocence prévaut à ce stade, le canton évoque des dysfonctionnements sur plusieurs années et des dépenses excessives de la direction. Selon les premiers éléments de l'audit du contrôle cantonal des finances, les montants se montent potentiellement à plusieurs centaines de milliers de francs. L'enquête devra déterminer précisément de combien on parle et jusqu'à quand les faits remontent. Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Rebecca Ruiz évoque un tournant au début de l'année 2019. Les soupçons de dysfonctionnement, eux, remontent au mois de juin de cette année. On écoute Rebecca Ruiz.
C'est un projet informatique qui est développé pour la Caisse, mais également pour d'autres partenaires, qui a suscité beaucoup d'inquiétudes dans le courant de l'année, mais très spécifiquement à la fin du mois de juin, et qui m'a poussée à proposer au Conseil d'État de solliciter le contrôle cantonal des finances pour pouvoir faire un audit sur ce projet informatique. Ce que le Conseil d'État a accepté, donc le mandat a été donné au CCF, et quelques jours après le lancement de cet audit, j'ai reçu un certain nombre de dénonciations qui portait autant sur le projet informatique en question, mais aussi sur les frais administratifs de la Caisse et sur des dépenses a priori excessives. C'est pourquoi le Conseil d'État a alors étendu le mandat du contrôle cantonal des finances pour examiner ces éléments qui nous avaient été communiqués et dénoncés.
En poste depuis 2009, la directrice de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a été licenciée mercredi pour juste motif. Quant aux 5 autres membres de la direction, ils sont suspendus dans l'attente de résultats d'investigation complémentaires. Une direction ad intérim a été mise en place. Y a-t-il eu dans cette affaire un défaut de gouvernance? On retrouve Rebecca Ruiz.
Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que les outils de gouvernance qu'on a actuellement nous ont permis de réagir très vite, puisque sitôt qu'il y a eu des alertes, alors sur le projet informatique, j'ai saisi le Conseil d'État qui, lui, a demandé au contrôle cantonal des finances de pouvoir faire cette analyse de manière extrêmement rapide. Maintenant, il est clair que sur la base de ce qui a été constaté par le CCF, le Conseil d'administration va lui aussi devoir entamer toute une série de démarches, une enquête administrative pour déterminer qu'est-ce qui était su, qu'est-ce qui pouvait être su, qu'est-ce qui aurait dû remonter au conseil d'administration, qui ne l'a pas été à cause de ce système, ou quels sont les flux d'informations entre le comité de direction et le conseil d'administration qui devraient, cas échéant, être revus. Tout ce travail, on va évidemment l'entamer maintenant pour s'assurer qu'on a les bons outils qui sont en place.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Maintenant, la justice va également entrer en jeu. Le conseil d'État et le conseil d'administration ont saisi le ministère public. Enfin, le canton l'assure, aucune perte, dommage ni préjudice n'est à constater pour les employeurs, les personnes affiliées et les bénéficiaires de rentes ou d'allocations. Les lauréats 2021 de la Fondation Vaudoise pour la Culture sont connus. Le Grand Prix revient aux humoristes Martine Jeanneret et Lova Golovchiner. Les prix culturels sont attribués au photographe Philippe Dubouy, à la musicienne Karine Zeina Guignard. aux éditrices de livres d'artistes Stéphanie Pfister et Jessica Vaucher-Ripopé, ainsi qu'à l'Association de médiation de la culture du bâti Ville en tête. Le prix du rayonnement est attribué au graphiste François Rappeau et celui de la relève au performeur Marc Osterhoff. Les distinctions seront remises le 2 octobre prochain au Musée cantonal des Beaux-Arts. La Maison de l'Environnement a été inaugurée hier. L'édifice situé dans le quartier de Vennes, à Lausanne, accueillera prochainement 180 collaborateurs de la Direction Générale de l'Environnement. Le bâtiment a coûté 18 millions de francs. Il se démarque par sa conception, qualifiée de révolutionnaire par les autorités. Le mot est d'ailleurs revenu à plusieurs reprises, révolutionnaire. Mais en quoi cette Maison de l'Environnement est-elle ainsi révolutionnaire? La réponse de Pascal Broulis, il est le chef du département chargé des bâtiments.
Tout d'abord, sur les matériaux nobles, renouvelables comme le bois, la terre de proximité, elle ne vient pas de très loin. Ensuite, c'est révolutionnaire mais aussi expérimental parce que c'est une des premières fois qu'on construit des murs en terre si haut. On verra comment ça vieillit, comment ça bouge, qu'on les intègre avec une construction pour de l'administration. Donc ça, c'est une grande première. Ensuite, après, vous êtes dans un concept qui regroupe toutes les dernières technologies en matière environnementale, panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, traitement de l'eau, la question aussi de la mobilité autour du bâtiment. Donc on a intégré le maximum de ce qu'on devrait prôner pour d'autres bâtiments. Puis on verra comment ça va vivre. Et puis de là, comme c'est expérimental aussi, eh bien on pourra exporter ces expériences sur nos prochaines grandes réalisations.
Justement, il y a d'autres projets de ce type qui sont en cours dans le canton.
Alors, on a des projets maintenant importants, très importants en bois. Après avoir réalisé une surélévation en ville de Lausanne, face du Parlement vaudois, qui était une construction uniquement en bois modulaire, on a le Parlement cantonal qui a été construit à l'intérieur, qui est entièrement en bois. Et puis maintenant, on s'attaque à un gymnase dans l'Est vaudois, à Aigle. Et ce gymnase, ça va être un grand bâtiment en bois sur plusieurs étages qui sera ensuite vraisemblablement renouvelé dans d'autres endroits de ce canton. Donc le bois cantonal, celui qui a poussé quasi à proximité, est utilisé pour construire.
Le bois, mais aussi la terre crue qui a servi pour les structures de la construction. Les matériaux ainsi que les technologies environnementales utilisées font de cette bâtisse, la MEV en abrégé, un exemple à suivre. Béatrice Métro, chef du département de l'environnement.
Nous sommes précurseurs, c'est un projet vraiment expérimental. Nous espérons très sincèrement qu'avec la volonté populaire aussi, les constructions, qu'elles soient privées ou publiques, aillent dans ce domaine, aillent, prennent ce chemin-là. Mais c'est un exemple et nous sommes très heureux de montrer cet exemple à l'ensemble de la population vaudoise.
Et en plus d'un exemple, il s'intègre parfaitement au plan de législature du Conseil d'État vaudois. On retrouve Béatrice Métro.
Elle symbolise très clairement l'engagement du Conseil d'État vaudois à trouver des solutions pour tout ce qui est problèmes environnementaux, dérèglement climatique, construction bas carbone. Et vous le voyez, cette maison, c'est un projet expérimental et ça répond finalement à toutes ces questions que nous nous posons concernant le réchauffement climatique et la loi sur l'énergie.
La conception de la Maison de l'Environnement a permis d'économiser 90 tonnes de ciment ainsi que 80 tonnes de CO2. C'était un dossier de Quentin Frey. Les cantons de Vaud et de Zurich ont signé une déclaration aujourd'hui, dans le but de soutenir les échanges durant la scolarité. L'objectif est de favoriser les séjours linguistiques entre les deux cantons. Cet accord marque un tournant, indique le canton de Vaud dans un communiqué. Il constitue en effet un exemple pour l'enrichissement des parcours scolaires et professionnels de chaque enfant ou jeune. Les deux cantons prévoient notamment de constituer un groupe de travail intercantonal afin de mettre sur pied des projets concrets et de les réaliser en collaboration avec les écoles. Le projet de fusion entre Montet et Colombey-Murat entre dans sa dernière phase consultative. La population est invitée à des rencontres citoyennes les 20 et 21 septembre au Perrère et les 27 et 28 septembre au Théâtre du Crochetan pour la présentation des enjeux suivis d'échanges. Il s'agit de l'ultime étape participative du projet avant sa finalisation et sa soumission aux législatives des deux communes. L'aboutissement est prévu le 15 mai 2022 avec une votation populaire. Et à Montet, toujours, des balades culturelles connectées ont été inaugurées hier soir. Mais d'abord, remontons en 2018, un collectif montaisan nommé « Décrire ma ville » lançait alors un appel à texte. Son but, récolter un maximum de manuscrits qui racontaient la ville de Montet pour ensuite les lire lors de balades accompagnées. Plus de 150 textes étaient parvenus, écrits par des auteurs de tous âges, de tous horizons, vivant ou non à Montet. En 2019, sortait un ouvrage qui les compilait tous. Et dès aujourd'hui, des balades articulées autour de ces écrits vous promèneront dans tous les coins de la cité. Ces écrits ont-ils été modifiés pour les besoins de la balade? On écoute l'écrivaine montaisane Abigail Serrant, membre du comité d'Écrire ma ville.
Oui, ce sont les mêmes textes, nous ne les avons pas touchés, simplement on en a fait vivre une trentaine maintenant dans la ville à laquelle ils appartiennent finalement, puisque c'est de là qu'ils viennent. On s'est rendu compte qu'il y avait de la frustration de la part des gens d'avoir eu ces balades accompagnées, mais de ne pas pouvoir avoir les textes dans la ville, et j'ai donc pris contact avec l'Office du Tourisme et je leur ai proposé le projet. Ils ont immédiatement accepté et se sont saisis de cette idée, et aujourd'hui on a maintenant la possibilité avec son smartphone de scanner un QR code, le texte est affiché, mais l'avantage du QR code, c'est que ça nous permet d'arriver à une version audio et puis d'avoir des images d'archives aussi pour les endroits où il y a de l'archive ou des images contemporaines si le texte est contemporain.
Est-ce qu'il faut autre chose comme matériel ou cela suffit?
Cela suffit, il n'y a même pas besoin forcément d'écouteurs. Parfois les bruits de la ville couvrent un peu le son, mais c'est tout à fait accessible quand on met le haut-parleur et qu'on peut entendre le texte. C'est vraiment une jolie manière de pérenniser ce projet. On est vraiment au cœur de la ville, au cœur des endroits où les choses se passent, où le texte a été raconté.
On peut être géolocalisé à l'aide d'une carte également.
Il y a une carte qui existe, qui effectivement a été dessinée par Ludovic Chappet, donc on peut faire les balades en suivant le circuit, ou alors on peut tomber sur le texte. Si on veut vraiment partir à la découverte du circuit qui a été prévu par l'Office du Tourisme, on peut le faire. Si par contre on a, de la culture d'opportunité, où tout d'un coup on est face à ce texte et on a envie d'en savoir plus, on peut aller simplement cliquer et télécharger ce texte et l'écouter, et voir les photos, les images d'archives parfois sont intéressantes, on voit à quel point la ville a changé aussi.
On entendra une voix féminine pour les texte écrit par des femmes et une voix masculine pour se rédiger par des hommes. C'était important de marquer la différence.
Je crois que c'est l'Office du Tourisme aussi qui a fait cette proposition et à laquelle on a immédiatement, nous, à Décrire ma ville, adhéré, qu'effectivement on puisse entendre des voix différentes. Un enrichissement, on s'était posé la question de faire lire par les gens qui ont écrit, mais c'est vrai que la voix d'un comédien ou d'une comédienne porte quelque chose de très spécial. C'est un vrai métier, la voix. On avait vraiment envie de garder cette qualité aussi d'écoute. On a la voix des gens par leur écrit et puis ensuite on a la voix portée qui porte le texte vers le public.
Et oui, c'est un vrai métier, la voix. Vous pouvez parcourir l'itinéraire de la balade connectée dès maintenant, chaque jour de l'année. Plus d'infos sur montettourisme.ch. C'était un sujet réalisé par Guillaume Abbé. L'augmentation de la population valaisanne a été supérieure à la moyenne nationale en 2020. C'est ce qu'indique le bulletin d'information statistique du canton, publié pour la première fois aujourd'hui. La hausse représente 0,9% contre 0,7% à l'échelon suisse, ce qui place le Valais en 11e position du classement des cantons, avec un peu moins de 350 000 habitants. L'année 2021 aura été catastrophique pour l'agriculture du canton à cause du gel et du mildiou. Des abandons massifs de surface sont constatés dans le vignoble. En urgence, des députés de tous bords ont appelé hier le canton à l'aide au Grand Conseil valaisan pour éviter les dépôts de bilan en rafale. Leur motion demandant une aide à fonds perdu n'a pourtant pas pu être discutée. Pour le Conseil d'État, c'est clair, une telle somme à débourser, c'est tout bonnement impossible financièrement. On parle de 40 à 80 millions de francs. La motion déposée a donc été transformée en postulat. Au travers de cet outil institutionnel, le Grand Conseil a ainsi demandé au gouvernement valaisan de trouver une solution pour faire face au manque à gagner dans le monde agricole. Car la situation actuelle qui offre des crédits sans intérêt aux agriculteurs en difficulté ne convient pas à long terme, selon le député PDC Emmanuel Chassot.
Des crédits sans intérêt sont proposés, mais non, ça ne suffit pas, car l'enchaînement de différents événements ces dernières années font que les réserves des exploitations agricoles sont au plus bas et certaines pourraient ne pas se relever, puisque même avec des prêts sans intérêt, il faudra quand même payer les amortissements. Et quand il n'y a pas de récolte, puisque dans certaines situations c'est zéro, quand il n'y a pas de récolte, expliquez-moi comment vous allez payer les amortissements.
À noter que la proposition acceptée hier soir au Grand Conseil n'oblige en aucun cas le gouvernement à débourser un seul centime. Et à la suite d'un problème technique sur ses conduites d'eau, la commune de Verrosa annonce une coupure d'eau aujourd'hui à partir de 10h, et ce jusqu'à une durée indéterminée. Les failles techniques de la fondation Mes Vaccins étaient très graves, indique le préposé fédéral à la protection des données, Adrian Lopsiger, dans son rapport final. La fondation était chargée du carnet de vaccination électronique sur mandat de l'OFSP. Les utilisateurs devraient pouvoir récupérer leurs données ou les supprimer. Une solution viable a été trouvée et est sur table, a expliqué M. Lopsiger sans donner de détails. La plateforme mesvaccins.ch était exploitée par la fondation sur mandat de l'OFSP. Elle documentait notamment les vaccinations contre le Covid-19 dans le carnet de vaccination électronique. Iris van Rotten, un nom qui vraisemblablement ne vous dit rien ou pas grand-chose. Elle fut une intellectuelle féministe avant l'heure au milieu du XXe siècle. Elle a écrit un livre en 1958 qui a jeté un énorme pavé dans la mare des discriminations dont étaient victimes les femmes. On était 13 ans avant l'octroi du droit de vote pour les femmes en Suisse. Et 63 ans après, l'ouvrage écrit en allemand est publié en français, traduit par Camille Logo, qui brosse le portrait d'Iris van Rotten.
Iris van Rotten, c'était une avocate, journaliste, qui a publié en 1958 ce manifeste féministe Frauen im Laufgitter, Femmes sous surveillance, en français, qui a jeté un pavé dans la mare, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, et qui donc était un vrai personnage public en son temps. Malheureusement, pas forcément dans le bon sens du terme, puisque son livre a fait scandale. Elle a subi beaucoup d'humiliation sur la place publique et suite à ça, elle a un peu disparu des radars. Et donc, c'est une femme qui a essayé de se battre pour le suffrage féminin, mais pas seulement, pour de manière générale, les droits des femmes et qu'on redécouvre petit à petit.
La féministe radicale Iris van Rotten, décédée en 1990, était intransigeante sur les questions d'égalité, exprimant sans retenue sa colère face aux injustices dont étaient victimes les femmes. Depuis lors, le monde a changé, les femmes peuvent voter et être élues. À qui s'adresse ce livre aujourd'hui? On écoute Camille Logo.
C'est une lecture ébouriffante et surtout c'est un livre qui est très bien structuré, qu'on peut picorer dedans et lire des passages sur les thématiques qui nous intéressent. Elle a une phrase que j'aime beaucoup, la première phrase du livre, en fait, sa préface, c'est le livre que j'aurais voulu lire à 20 ans mais que je n'ai pas trouvé. Et j'espère que plein de jeunes femmes de 20 ans vont découvrir ce livre et pourront être inspirées, réconfortées, mais aussi stimulées par sa voix et par sa pensée.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. « Femmes sous surveillance », le titre du livre est publié aux éditions Antipode. À l'étranger, le gouverneur du Texas a adopté hier une loi interdisant aux réseaux sociaux de bannir des utilisateurs en fonction de leurs opinions politiques. D'après un communiqué de l'État républicain, Facebook et ses concurrents se défendent de toute censure. Les élus conservateurs américains accusent régulièrement Facebook et Twitter, entre autres, de censure à leur égard et de parti pris en faveur des démocrates, même si nombre de gouverneurs et de représentants des deux bords politiques utilisent à leur avantage les réseaux sociaux. Le premier vol transportant des étrangers hors d'Afghanistan depuis le retrait américain fin août s'est déroulé hier. Une centaine de civils sont arrivés un peu plus tard dans la journée à Doha. Quelques 113 passagers étaient à bord du Boeing 777, dont des Américains, des Canadiens, des Allemands et des Ukrainiens. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source proche de l'opération. Ils seront accueillis dans un centre pour réfugiés afghans à Doha, toujours selon cette même source. C'est parti pour le sport. En hockey sur glace, Lausanne et Genève Servette ont remis à jour leur voie de transfert privilégié. Une année après avoir concocté à plusieurs échanges de joueurs, les deux clubs lémaniques jouent à nouveau les vases communicants. Mais cette fois, seul un élément est impliqué. Il s'agit de l'attaquant Josh Joris qui quitte le LHC pour rejoindre les Aigles. Un contrat valable jusqu'à la fin de la saison attend le centre canadien à licence suisse. Arrivé à Lausanne en 2019, Josh Joris aura disputé 101 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Vaudois pour un total de 53 points. Et en hockey sur glace, toujours, les années se suivent et se ressemblent pour Goran Bezina. Le Montaisan n'en démord pas. À 41 ans, la passion pour le puck est toujours intacte. Si en plus de 20 ans de carrière, beaucoup de choses se passent, la motivation du Chablaisien est quant à elle toujours d'actualité. Elle a certes beaucoup évolué au cours des années, mais lui permet toujours d'évoluer au sein d'une formation professionnelle. Grâce à sa longue expérience, la parole du Valaisan a du poids. Son discours de leader dans le vestiaire n'a pas changé. En revanche, la manière de le prononcer a quelque peu changé, elle. Les précisions de Goran Bezina.
Le message que tu dois faire passer est différent. Pas différent, le message est le même, mais tu dois le faire passer d'une manière différente. Parce que quand tu es au milieu du vestiaire, quand tu es vraiment, on va dire, le leader du groupe à 25-30 ans, où tu peux gueuler sur les joueurs qui ont peut-être 24 ou juste un peu plus âgé que toi, tu peux pousser des gueulés, tu peux vraiment y aller à sans main morte, mais là, justement, il y a des fois, il y a 20 ans de différence. Si tu arrives avec cette attitude-là, il risque de le prendre un mal ou il risque de se renfermer. C'est pour ça qu'il faut faire passer ce message d'une manière différente, on va dire plus douce, parce que déjà, la nouvelle génération est, on va dire, un peu plus sensible que les anciennes. Des fois, il faut choisir tes mots, la manière dont tu le transmets, pour pas qu'ils se braquent.
Est-ce que eux directement viennent vous voir pour simplement demander des conseils? Est-ce que tu peux me donner un conseil sur ça, sur ça? Est-ce qu'il y a cette démarche personnellement de eux qui viennent vers vous?
Ouais, y a pas tout le monde qui ose, y a pas tout le monde qui le fait, mais c'est souvent toi qui dois aller. C'est toujours été comme ça. C'est souvent toi qui dois aller vers les joueurs pour dire quelque chose ou le conseiller, quoi. C'est rare qu'ils vont venir. Après, oui, avec Vinegar, on joue dans la ligne, on discute énormément parce que justement on doit mettre en place tout le jeu, mais avec les autres, c'est plutôt moi qui fais le pas.
Le HCCR retrouvera donc la Swiss League ce soir. La formation valaisanne se déplace sur la glace des Ticino Rockets dès 18h. C'était un sujet signé Ludovic Turin. Et en course à pied, les organisateurs d'À Travers Aigles cherchent toujours la bonne formule. Pour la 12e édition prévue demain, les organisateurs ont misé sur le changement. Plus de parcours articulés en boucle au centre-ville et plus d'épreuves mises sur pied au début du mois de décembre. Plus, je crois, le but, séduire un public plus large. Mais la manifestation gérée par la société de gym Aigle Alliance, le FC Aigle et le club du Nihoké Eagles UHC Aigle n'a pas fait mouche cette année. Sur les 230 personnes inscrites la veille de l'événement, 170 sont des écoliers aiglons. Malgré de nombreux efforts, la mayonnaise ne semble donc pas prendre. Yvan Vuillameau, président du comité d'organisation de la course À Travers Aigles, revient sur les changements apportés au parcours.
On était parti donc sur des tout nouveaux parcours. On a décidé de sortir un tout petit peu vraiment du centre-ville d'Aigle. On avait quelques soucis, on va dire, d'organisation. C'est pas toujours simple de bloquer vraiment la ville d'Aigle. Donc on était parti sur un samedi. On est parti sur le côté de la ville, on va dire, en partant depuis la cantine des Glariers, en faisant un tour dans le vignoble avec une jolie petite montée au début, histoire de bien chauffer les mollets. Et après, un tour sur le bas de la ville avec un parcours très connu de tous les écoliers, c'est-à-dire une descente au niveau de la mêlée. Donc, c'est l'endroit où la grande eau se jette dans le Rhône, très connu des aiglons. Et puis, un retour le long de la grande eau, vraiment un petit parcours sur aigle, vraiment sympathique, d'à peu près 9 km.
À noter que les premiers départs de cette 12e édition de la course À Travers Aigles seront donnés demain à 9h devant la halle des Glariers. C'était un sujet signé Julien Traxel.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Evelyne Vitelli pour un accompagnement parental ou un soutien éducatif bienveillant à domicile. Nêtreparent.ch.
Le temps sera souvent nuageux cet après-midi avec quelques averses possibles, plus probables en montagne. Il va faire jusqu'à 21 degrés en plaine, 18 à 1000 mètres. Pour ce week-end, des résidus nuageux pour débuter la journée de demain samedi, puis passage à un temps généralement ensoleillé. L'après-midi, formation de cumulus en montagne, mais le risque d'averse va rester faible, tout comme dimanche qui sera également une journée ensoleillée avec un soleil généreux. C'est ce que nous dit Météo Suisse, avec toujours des cumulus l'après-midi. Pour ce week-end, des températures qui vont passer de 14 à 23 degrés en plaine, de 11 à 20 à 1000 mètres et de 9 à 13 à 2000. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.